avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue dans cet épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
L'épisode que vous écoutez aujourd'hui est l'aboutissement d'un long travail qu'on a commencé en 2008. Il a connu des détours, des délais, des problèmes, comme tous les projets en fait. Mais si vous avez suivi l'histoire de Déclencheur, et en particulier si vous lisez le blog Carnet, les coulisses de Déclencheur, eh bien cet épisode ne sera pas une surprise. À partir d'aujourd'hui, nous allons vous proposer deux versions de Déclencheur. La version qu'on appellera Silver, qui est le Déclencheur que vous connaissez, un excellent, en tout cas c'est ce que vous me dites, magazine photo à emporter sur son iPod, sur son iPhone, sur tout baladeur, écouter sur l'ordinateur aussi bien entendu, et vous pouvez l'écouter surtout en voiture, en moto, en métro, en train, en avion, au bureau, bref, où vous voulez, quand vous voulez. Et une deuxième version qu'on appelle Déclencheur Gold, qui est le même magazine, mais qui deux fois par mois va vous proposer d'aller plus loin avec des émissions plus longues. Qui plus est, vous aurez le choix de les écouter en mono ou en stéréo, avec ou sans chapitrage. Et enfin, on a complètement retravaillé notre boutique, parce que c'est la principale critique qu'on lui opposait, elle est maintenant compatible avec iTunes. Déclencheur Silver reste gratuit, Déclencheur Gold vous est proposé à un prix modique au numéro, et des souscriptions plus avantageuses vous sont également proposées. C'est une nouvelle étape importante pour Déclencheur. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien sans faille pendant ces quelques années et j'espère que vous continuerez à apprécier ces nouvelles émissions. Je ne vais pas revenir en détail sur l'historique du pourquoi et du comment. En quelques mots, l'idée, c'est d'équilibrer l'effort que représente la production de Déclencheur avec les ressources dont on dispose pour cela. J'ai déjà dit, pour le moment, on fait vraiment le grand écart et ça n'est plus possible. Alors on s'est donné le temps de la réflexion, on s'est entouré, on s'est fait conseiller, on a essayé différents scénarios, on a fait beaucoup de choses pour se préparer dans la mise en œuvre de ce nouveau Déclencheur, et je suis persuadé que la formule qu'on met en œuvre aujourd'hui est celle qui nous permettra de continuer à produire un bon magazine sur la photo, mais surtout un magazine mobile, un magazine à emporter, un magazine pratique. Si vous souhaitez échanger sur ces nouvelles formules, Déclencheur Silver, Déclencheur Gold, j'ai posté une note sur Déclencheur Carnet qui reprend l'évolution, la logique derrière tout cela. Je vous invite à commenter sur cette note. Il se peut également qu'on rencontre quelques petits soucis techniques pendant la période du lancement, donc je vous demande d'être indulgent et surtout de ne pas hésiter à signaler tout problème. On ne peut corriger les problèmes qu'une fois qu'on est mis au courant. Le sujet de la semaine, c'est une rencontre avec Cyril Bruno, que vous connaissez bien, puisqu'il est l'auteur de plusieurs livres sur Photoshop et sur Lightroom aux éditions Erol. Cyril a cette particularité de combiner des compétences de photographe et des compétences de retoucheur, et il nous parle de la relation entre ces deux activités. Cyril tient également un blog très intéressant qui s'appelle Photographe Professionnel. Il ne poste pas assez souvent malheureusement, mais les notes sont toujours très intéressantes. Cyril Bruno, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Bah, très bien.
Alors, raconte-moi un petit peu, toi tu es photographe et aussi auteur. Tu as fait quelques bouquins chez Erol.
Voilà, donc mon métier c'est photographe. Je travaille pour les entreprises essentiellement. En parallèle, je fais de la retouche photo pour les photos que je fais, pour faire des photomontages, etc. Donc j'ai une grosse spécialité en retouche photo. Et il y a quelques années, Erol m'a proposé d'écrire des livres sur la retouche photo. Donc j'ai sorti, je ne sais plus où j'en suis, mais entre 5 et 10 livres sur la retouche photo. Et en même temps, on me sollicite pour des formations, pour des DVD, des choses comme ça.
Ouais, c'est cool.
Ouais, c'est très bien. Et puis ça aide à simplifier, à remettre les bases. Quand on écrit quelque chose, ça nous oblige à être rigoureux aussi, à ne pas dire de bêtises. Donc, on vérifie ce qu'on croyait savoir. On découvre de nouvelles choses, en fait. J'ai eu l'expérience là récemment avec un cahier d'exercice sur Lightroom. Je me suis replongé dans ce logiciel parce que c'est un logiciel que j'avais appris tout seul en autodidacte. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que quand on essaye d'enseigner quelque chose, eh ben, on approfondit vraiment le sujet.
C'est bien. On revient sur ton travail de photographe corporate. Tu m'avais dit une fois, je fais des photos difficiles.
Voilà. C'est parce que, en fait, comme j'ai cette spécialité de retoucheur, au départ, j'avais commencé à faire de la retouche pour les grosses marques de luxe, et parfois, on va me demander de faire des photos qui sont compliquées à faire, c'est-à-dire que techniquement, il va falloir faire appel à l'ordinateur. Et donc, comme on sait que je maîtrise l'ordinateur et que je vais maîtriser la prise de vue également, je vais pouvoir concevoir la prise de vue en fonction de ce que j'aurai besoin pour le montage, s'il y a besoin d'un montage. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est, par exemple, que retoucheur, on est un peu tributeur des fichiers qu'on va nous apporter. Et parfois, les fichiers ne fonctionnent pas. Donc, on est obligé d'arranger un peu les choses. Et finalement, le montage sonne un peu faux. Tandis que quand on maîtrise tout de A à Z, on va faire la prise de vue en fonction du résultat qu'on veut avoir à la fin. Et donc, du coup, on va faire attention aux lumières, aux perspectives, à tous ces petits détails. qui vont faire que le montage va bien se passer sur l'ordinateur, et puis, quand on verra le résultat final, ben, on y verra que du feu.
Tu photographies en fonction du fait que tu vas retoucher derrière.
Exactement. Si on veut, par exemple, prendre un objet en photo, qu'on veut mettre derrière un paysage qui serait une deuxième photo, eh ben, il va falloir quand même faire attention à la lumière de l'objet qu'on va photographier, qui soit la même que le paysage, avec les mêmes ombres, même axe, même genre de lumière, une lumière diffuse ou une lumière avec un soleil direct. Il va falloir faire attention à ça. Il va falloir faire attention à la perspective, c'est-à-dire que si, en exagérant, si on est en contre-plongée sur la première photo et sur la deuxième, on est en plongée, le montage ne va pas bien se passer. Des petits détails comme ça, ou l'endroit où on va poser cet objet dans notre deuxième photo, peut-être prévoir, je sais pas, d'avoir posé un objet similaire pour avoir les mêmes genres d'ombres, etc., posé sur le décor. Enfin bref, il va falloir réfléchir à plein de petits détails qui vont faire que quand le montage sera fait à la fin, eh ben on y verra que du feu.
Donc c'est vraiment dans cette logique de dessiner avec des photos, en fait.
Oui, il y a du dessin. Moi, je sais que sans ma tablette graphique, là, je serais malheureux.
Je crois que beaucoup de gens ont cette image de voir Photoshop comme étant l'outil qui va permettre de faire l'image que je n'ai pas su faire. C'est un peu ce que tu fais aussi, tu fais l'image qu'on n'a pas su faire, avec cette particularité que dès le départ, tu sais quelle est l'image que tu vas faire. Bon, au final, les gens achètent tes livres qui est l'exercice Photoshop parce qu'ils se disent « je vais pouvoir rattraper mes photos ». Et toi, tu n'es pas du tout dans une démarche de rattraper les photos.
Non, pas du tout. Ben, rattraper des photos, déjà, l'idée ne sonne pas forcément bien, quoi. C'est-à-dire que bon, si on a fait une mauvaise photo et qu'on veut la rattraper, c'est déjà qu'on n'est pas dans la bonne direction. Mais moi, j'utilise vraiment Photoshop comme un outil pour concevoir une image. C'est-à-dire que j'ai une idée et je veux la réaliser et je cherche les moyens. Alors parfois c'est Photoshop, parfois c'est pas Photoshop. Par exemple, dans un bâtiment avec une fenêtre derrière, on sait très bien qu'on aura soit l'intérieur du bâtiment, soit l'extérieur, mais on n'aura pas une gamme d'exposition suffisamment grande pour être bien exposé partout. Donc souvent, on se dit, on va exposer deux fois et puis on va faire le montage dans Photoshop pour pouvoir rattraper les hautes et les basses lumières. Ça, c'est le genre de montage simple qui fait qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait au moment de la prise de vue. Donc on se dit, tiens, si je veux monter ça facilement, je vais me mettre sur pied, on y réfléchit.
De plus en plus, on voit ça avec du HDR.
Exactement.
C'est vrai qu'il y a maintenant, on voit bien qu'on doit être rigoureux, on voit bien qu'on doit être organisé.
Et on utilise Photoshop pour pallier, par exemple, à des défauts d'un capteur numérique qui ne capte pas une latitude aussi grande que notre œil. Ça serait trop long à faire sinon, parce qu'avant, comment on faisait quand il n'y avait pas Photoshop, quand il y avait l'histoire de la pièce qui était trop sombre par rapport à l'extérieur, qui était trop claire, et ben, on faisait une première photo et on mettait du noir sur toutes les fenêtres et on faisait une double exposition avec l'extérieur et en faisant l'inverse. Voilà, donc c'était très long, très compliqué. Là, l'ordinateur nous simplifie beaucoup la vie. En fait, je pense qu'en tant que photographe, l'image, on la crée d'abord dans sa tête. Mais parfois, l'image, elle peut aller un peu plus loin que la simple réalité. Parfois, on a une image un peu différente. Et donc, on va trouver les moyens pour le créer. Alors, parfois, c'est simplement l'appareil photo, ça suffit. Et parfois, il va falloir l'ordinateur en plus pour créer cette image qu'on a dans la tête. Alors, c'est vrai qu'on sort du clic-clac Kodak, ça y est, on est sur la pellicule, ça y est. Mais c'est toujours, on crée une image. Alors,
mais quelque part, quand on a voulu créer l'image, on est toujours sorti du clic-clac Kodak. On bouge autour du sujet pour avoir le bon éclairage, la bonne lumière, la bonne composition, etc. On se rapproche, on s'éloigne. Donc, on est déjà en train de manipuler. On n'utilise qu'un seul outil pour manipuler.
Je pense qu'il nous manque un mot. C'est-à-dire que le photographe, c'est quoi photographe ? C'est écrire avec la lumière. Donc, on prend une scène, on prend un parti pris, on choisit, etc. Mais grosso modo, la lumière a écrit sur la pellicule et on devrait s'arrêter là. Après, on veut créer une image. C'est plus une photo, c'est une image.
Mm-hmm.
On veut créer une image.
Il faudrait appeler ça des images graphes.
Voilà, je ne sais pas. Ou, c'est marrant, mais c'est un peu à mi-chemin entre la peinture et la photo. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est peut-être un peu... Je ne sais pas. On crée une image. Oui.
Mm-hmm.
C'est plus une photo. On part sur un truc un petit peu différent. Moi, je sais que l'ordinateur, quand il est apparu, c'était un outil que j'attendais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait des photos, même, enfin mes photos perso en tout cas, sur des trucs un peu abstraits, etc., etc. Enfin, et j'ai toujours été un peu embêtant avec les labos parce que j'avais des idées bien précises de ce que je voulais. Je me suis même renvoyé de plusieurs labos parce que je les embêtais trop, parce que je voulais absolument un truc un peu... Je leur faisais perdre un peu trop de temps. Comme je débutais dans la photo, je leur apportais pas un chiffre d'affaires assez grand pour qu'ils soient assez patients avec moi. Et donc, voilà. Et quand l'ordinateur est arrivé, je me suis dit, mais ça, c'est génial parce que je vais pouvoir tout contrôler de A à Z. Et ça, c'est génial parce
ça
que
ça a d'abord été un outil pour prendre le contrôle
du contrôle de l'image,
la retouche, même le, pas le tirage. En fait.
Là, voilà, c'était même pas une question de retouche, c'était une question
faire
de
le tirage.
Voilà, d'interprétation des lumières, etc., les couleurs, enfin bref. Là, l'ordinateur est génial parce qu'on peut tout contrôler de A à Z, on peut tout faire et c'est vraiment un outil fantastique.
Et comment est-ce que tu es passé de cette étape qui est du tirage sur l'ordinateur, mais qui reste du tirage, qui reste dans les métiers traditionnels de la photo, au montage?
Alors, moi, quand l'ordinateur arrivait, je me disais, c'est génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai commencé à apprendre. Et comme c'était les débuts de l'ordinateur, j'étais parmi les premiers. Et à l'époque, j'étais assistant de photo dans des studios de photo. Et je voyais qu'il y avait des besoins en retouches. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas trop faire les retouches, ou alors ils les confiaient dans des labos pour des prix mais exorbitants. Et j'ai commencé à le faire pour les photographes qui me faisaient travailler. Et puis après, je l'ai fait pour les clients des photographes qui me prenaient comme assistant. Donc du coup, je me suis lancé très vite dans la retouche professionnelle pour des clients assez prestigieux. Et donc j'étais là à un moment de la prise de vue, donc je voyais la prise de vue. J'avais l'image qui arrivait sur l'ordinateur et je la retouchais. En plus, je pouvais dire au photographe, bah, attention, prends ça avec telle lumière, fais attention à la lumière. Et c'est comme ça que ça a commencé la démarche. Après, je me suis lancé à mon compte en tant que photographe. Et j'ai toujours gardé ces deux voies. Et j'ai toujours développé la retouche, la photo, les deux ensemble. Et c'est comme ça que c'est venu.
J'imagine que ça ne doit pas toujours être facile de savoir ce que tu vas faire à la prise de vue, ce que tu vas faire dans Photoshop. Comment tu prends ce genre de décision?
Alors parfois, il y a des... Et souvent, l'utilité de Photoshop, c'est de contourner des problèmes techniques au moment de la prise de vue. Par exemple, moi l'autre jour, je me suis retrouvé en train de prendre un portrait d'un mécanicien en train de réparer un moteur. Et si je voulais mettre en valeur le moteur, j'éclairais mal le technicien. Et si je voulais éclairer bien le technicien, le moteur n'était pas bien éclairé.
Ouais.
Donc là, c'était assez simple d'imaginer de faire deux fois, quoi. Mmh. Au lieu de trouver un compromis au niveau de l'éclairage entre un truc qui est pas trop mal pour les deux, de me dire, ah, tiens, je vais faire une belle lumière pour l'histoire du moteur, etc. Et après, une belle lumière pour l'histoire du technicien. Et juste d'assembler les choses très simplement après dans Photoshop. Bah, le technicien, je lui explique, bah, voilà, on fait la photo pour vous, et après on fait la photo pour le moteur. Donc là, c'est pour vous, faites attention à la pose.
Et il doit rester au même endroit?
Pas forcément, ça dépend. Ça dépend de la photo, il y a des fois où il peut bouger, et il faut le faire en deux fois. C'est moi qui ne dois pas bouger, c'est mon appareil qui ne doit pas bouger. Ça, c'est le genre de truc de la vie de tous les jours, où Photoshop apporte des solutions qui font que soit l'image sera meilleure, soit on gagnera du temps au moment de la prise de vue.
Il t'est déjà arrivé de dire, en travaillant sur une photo, zut, ça, j'aurais pu le faire à la prise de vue plus facilement?
Bah oui. Bah, un exemple bête, c'est, tiens, si j'avais été sur pied, j'aurais assemblé ces deux choses plus simplement, mais on n'y pense pas, et c'est au moment où on voit la photo sur l'ordinateur, on dira, ah, ça aurait été bien si ça, ça faisait partie de telle image, et puis de tel élément de l'autre, et puis on se met à les assembler sur l'ordinateur, mais si on avait pensé à ça au moment de la prise de vue, c'est sûr qu'on l'aurait fait différemment et plus facilement. Mais parfois, on pense aux choses après, quoi. On voit l'image, ah, c'est sympa, mais...
Sur ton site, donc cyrilbruneau.com,
oui.
Tu as des exemples de ton travail, et tu as notamment un exemple de photomontage avec un tracteur.
Oui.
Un tracteur déguisé en cheval. Tu peux nous expliquer la genèse de ce projet-là et les différentes étapes?
Alors, au départ, l'agence de publicité avait convenu avec le client, qui est un fabricant de tracteurs, de créer une affiche avec des tracteurs qui seraient recouvertes de je ne sais pas comment ça s'appelle, les couvertures qu'on met sur les chevaux.
Les chevaux de course?
Oui, les chevaux de course.
Oui, oui, on voit sur les débuts des tiercés,
voilà,
ils sont tous couverts de cette couverture-là. Ouais.
Pour montrer un peu que c'est des engins...
rapides et, voilà, et efficaces.
Donc, ils voulaient faire ça, mais leur souci, c'était que ces couvertures pour les chevaux sont pas assez grandes par rapport à la taille des tracteurs. Donc, ils avaient conçu l'idée en dessin et ils voulaient qu'on le réalise en photo.
Comment ça se passe? Tu rencontres le client? Comment...
Alors là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait une partie des photos qui étaient faites et je devais faire avec les photos. J'avais quelques photos de tracteurs et quelques photos de housses pour les chevaux. Et ils montraient le dessin qu'ils avaient fait. Ils m'ont dit, ben voilà, on a déjà ça.
Là, tu n'as pas agi comme photographe. Tu as
agi... J'ai agi sur d'autres photos qui rentraient dans le montage.
D'accord.
Par rapport au paysage, etc. Donc, ils m'ont dit, ben voilà, on a déjà une partie, il faut que tu fasses le reste, plus le montage. Et là, à partir de là, il a fallu passer pas mal de temps devant l'ordinateur parce que ces couvertures n'étaient pas assez grandes, il fallait les adapter sur les tracteurs, il fallait en même temps qu'ils épousent la forme des tracteurs. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment imaginer que cette couverture enveloppait une roue, donc ça prenait la forme de la roue, donc il fallait déformer toutes les couvertures pour qu'elles adaptent la forme, etc. Il fallait recréer le paysage fallait monter plusieurs tracteurs les uns à côté des autres, qui étaient sur des photos différentes, dans la bonne perspective. Il fallait y inclure un paysage, avec la même perspective, avec un ciel, etc., qui convient. Et il fallait recréer, je ne sais pas combien de kilomètres de gazon qui n'existait pas.
C'est quasiment du dessin, en fait.
Ben à la fin, c'est vrai, ça devient presque du dessin, enfin du dessin photo. Quand on prend des matières, qu'on recolle à des endroits, il ne faut pas que ça se voit, etc.
Ça représente combien d'heures de travail ?
Je pense que j'avais mis, une quinzaine d'heures à le faire. Mm-hmm. Voilà, une quinzaine d'heures. Mais c'était drôle parce que c'est des challenges. On se dit, tiens, comment on va réussir à faire ça ? Le point le plus important, c'est l'œil. C'est-à-dire qu'il va falloir se poser les questions de... Est-ce qu'un peintre, il se pose ces questions-là quand il dessine un objet, il va se poser les questions, comment sont les ombres, comment sont les perspectives, comment est un objet, etc., etc. Il va essayer de visualiser les choses dans sa tête pour les reproduire sur un dessin. Et quand on conçoit une image, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va réfléchir aux proportions, on va réfléchir à tout ça.
Et là, on t'a fourni une partie des photos. Elles étaient bien faites par rapport à ce qu'il fallait travailler ou tu les aurais fait autrement ?
Moi, j'aurais fait autrement. Notamment, la chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'était cette histoire de couverture qui enveloppait les roues. Moi, j'aurais fait plusieurs prises de vue pour avoir la forme de la couverture quand elle enveloppe les roues. Là, j'ai dû un peu la deviner. Et donc, j'ai recréé les ombres et la forme du tissu en fonction de ce que j'imaginerais que ça donne. C'est pour ça que je dis que l'œil est assez important quand on fait des montages, parce qu'il y a parfois des moments où on doit imaginer ce que ça aurait fait.
Quels sont les points auxquels on peut faire attention et qui vont tout de suite aider à améliorer la qualité du résultat ?
Alors, il y a des exemples très simples. Par exemple, quand on veut détourer une personne, on va s'arranger à ne pas avoir des cheveux noirs sur un fond noir, parce que là, on va se dire que c'est impossible. On va essayer de se simplifier un peu la vie. Voilà, sur un fond neutre, pour pouvoir le détourer facilement. Ça dépend là où on est. C'est-à-dire que dans un paysage, on a quand même de la latitude, parce qu'on parle d'un espace qui est assez grand, qui va à l'infini. Il va falloir faire attention aux perspectives. Comme, je ne sais pas, quelqu'un qui dessine, il fait attention à que tous les plans soient dans la même perspective, avec un plan de fuite, etc., etc. Là, c'est à peu près la même chose. C'est sûr qu'il y a une latitude d'erreur possible, puisque même avec Photoshop, on peut quand même un peu corriger même les perspectives, dans une certaine limite. On va être le plus rigoureux possible. Par exemple, si on se dit, tiens, j'ai pris un objet, j'étais sur une table à 1 mètre de hauteur, j'étais aligné vraiment en face, eh ben, on va faire attention, quand on va prendre le paysage, de pouvoir être à la même taille que l'objet qu'on va insérer, pour pouvoir être en face et pas avoir l'impression qu'il est pris d'en haut et on ne voit pas la face supérieure de l'objet. C'est juste une question d'y penser un petit peu, et les choses sont très logiques, mais il faut y penser parce qu'on ne pourra pas refaire.
Est-ce qu'il faut faire attention à être sur les mêmes paramètres techniques, ouverture, pose, sensibilité, choix de la focale ?
Alors, choix de la focale, ça va influencer sur les perspectives, donc il faut y faire attention. En ce qui concerne la sensibilité, bien sûr, parce qu'il y aura une partie qui n'aura pas de grain et l'autre qui aura beaucoup de grain, mais pareil, maintenant avec les capteurs, il y a des sensibilités où on ne voit pas la différence. Puis ça dépend aussi à quelle taille ça va être imprimé, enfin il y a beaucoup de paramètres qui vont faire qu'il y aura une latitude plus ou moins grande de choix technique, et par rapport à la profondeur de champ, bien sûr, puisque si on veut une profondeur de champ grande, on a intérêt à avoir le même genre de profondeur de champ pour ce qu'on va assembler par la suite.
Et en final, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce qui semblera être la solution simple aussi, qui est de faire faire une grande couverture ?
Alors, c'est ce qu'on faisait avant que Photoshop soit aussi répandu. Il y avait des métiers qui s'appelaient des model makers, qui crée ce genre d'objet.
Ou un petit tracteur.
Voilà, exactement. Et c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire qu'auparavant, on allait recréer beaucoup de choses en studio. Il y avait des gens qui étaient spécialisés pour refaire des choses en maquette. Ça existe toujours, ces métiers-là, mais c'est beaucoup moins répandu. Et donc, on l'aurait fait il y a 20 ans. Mm-hmm. On l'aurait fait, c'est-à-dire qu'on aurait demandé à une couturière de recoudre, etc., un tissu, et on l'aurait ajouté, etc. Mais aujourd'hui, les budgets étant beaucoup plus réduits en publicité, on va faire le moins coûteux possible et surtout, on aura moins le temps. Avant, on prenait beaucoup plus de temps pour créer une image parce que c'était comme ça, c'est comme ça que ça devait se passer, on n'avait pas le choix. Et là, aujourd'hui, comme on a le choix, on se dit, bah, tiens, on va le faire plus vite et puis on veut que ça nous coûte moins cher. Peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple, mais il y a plein d'exemples pour des marques, je ne sais pas moi, de bonbons rafraîchissants pour la laine où on aurait aimé les mettre sur la banquise pour montrer que c'est très frais. Avant, on serait parti dans un pays nordique pour faire cette photo. Aujourd'hui, on va faire la photo en studio, on va prendre une photo de banquise dans une banque d'images et on va faire le montage. Et là, on comprend bien
Ça coûte moins cher. Tu disais d'autres exemples ?
Oui, par exemple. Alors là, c'est un exemple pour créer une image qui ne peut pas exister quelque part, mais c'est quand même assez réaliste. Et parfois, il y a d'autres images où on veut illustrer une idée. Par exemple, moi, je disais que je travaille beaucoup pour L'Oréal. Ils ont une fondation avec l'UNESCO qui récompense des femmes scientifiques dans chaque continent. Mmh. Et donc, ces femmes scientifiques, ça n'a rien à voir avec la cosmétique, sont récompensées pour leur travail en science. Mais aujourd'hui, en science, qu'on étudie la génétique ou la chimie, en général, on est quand même beaucoup devant un ordinateur. Ce n'est pas du tout l'image de Pasteur avec ses tubes à essai, etc., etc. Ou c'est dans des trucs qui sont tellement petits qu'on ne peut pas les voir. Donc, c'est très difficile pour illustrer en une photo...
Le concept de la scientifique qui est chimiste ou qui est...
Voilà.
En fait, si on la photographiait dans son lieu de travail, ça on aurait un petit bureau avec un ordinateur. Et...
Exactement. Donc, pour illustrer ça en tant qu'image, parfois, ils vont la faire manipuler de l'ADN, mais l'ADN, comme c'est microscopique, on va la faire intégrer entre ses mains, par exemple, pour comprendre qu'elle étudie l'ADN. Donc ça, c'est un montage, on sait que ce n'est pas la réalité, mais on se sert de l'ordinateur pour illustrer le principe. Il y a aussi d'autres exemples où il y a des éléments inesthétiques qu'on ne peut pas déplacer. On va penser au fil électrique, au pylône, aux choses comme ça, qu'on a envie d'enlever parce que ça va simplifier l'image, ça va la rendre plus jolie, etc. etc. Donc, on utilise, je veux dire, l'ordinateur pour arriver à créer une image. Et puis, il y a l'autre chose, là où moi, je travaille beaucoup, qui est un peu un exemple différent, mais très intéressant, c'est l'histoire des visages. C'est-à-dire qu'on va retoucher beaucoup les visages aujourd'hui. Et là, carrément, moi, je trouve qu'on va un peu loin. C'est-à-dire qu'on... Maintenant, quand on regarde les magazines, on part vraiment dans un truc où c'est... on ne reconnaît presque plus les personnes. Je ne sais pas si tu vois, par exemple, il y a certaines campagnes pour des parfums aujourd'hui avec des actrices connues. On regarde et la retouche est tellement importante que le visage ne veut plus rien dire. Il n'y a plus d'expression.
Oui, mais on voit parfois circuler des photos avant-après sur Internet. Et, voilà. Et c'est vrai que les différences sont énormes.
Ouais. À ce niveau-là, je trouve que la retouche... pose problème, c'est-à-dire que...
Mais quelle est la différence entre enlever quelques rides sur une actrice et enlever les fils qui sont gênants sur une photo, entre lui donner un teint de peau, etc., qui n'a aucune réalité, et mettre une couverture sur un tracteur? Dans les deux cas, on est en train de créer une image.
C'est vrai, c'est intéressant comme question. C'est intéressant, c'est vrai.
Et c'est intéressant qu'il y en a qui te gênent et qu'il y en a d'autres que tu trouves tout à fait naturel.
Alors, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que là où ça me gêne... c'est qu'il y a des photos, on les lit, par exemple l'histoire du tracteur, on va lire ça comme... on va utiliser l'image comme un langage. C'est-à-dire qu'on va comprendre, en regardant l'image, ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire l'association entre les chevaux et le tracteur. Ils nous donnent une idée et...
Dans le registre de la métaphore.
Voilà. Tandis que... enlever les rides, bon, j'ai rien contre, hein, quand c'est dans la limite du raisonnable, que ce soit comme... l'effet d'un maquillage, par exemple. Une femme qui se maquille, qui veut se rendre belle. Quand c'est dans cette limite-là, d'accord. Mais quand c'est une femme qui veut paraître 20 ans de moins et on va utiliser l'ordinateur pour gommer vraiment tous les défauts, on arrive à des fois où ça devient ridicule. Ça devient ridicule parce qu'il n'y a plus d'expression, il n'y a plus rien, etc., etc. Et je trouve ça dommage. Bon, moi, je suis dans le métier, donc je sais comment ça se passe. Et quand je vois les photos dans les magazines, je sais qu'elles sont retouchées. Mais ce que je remarque beaucoup quand je prends des gens en photo... c'est que, à force de voir les photos dans les magazines, etc., comme ça, il se crée un espèce de complexe pas mal chez les femmes qui se disent « moi, je ne suis pas comme ça, moi, j'ai des rides, moi, j'ai ceci, j'ai trois rides qui apparaissent au bord de l'œil. » Et là, d'un coup, elles commencent à se sentir moches parce que ça ne fait plus partie des critères de beauté. Et là, je trouve ça dommage parce que si elles savaient comment ça se passe une séance de photos, comment ça se passe au niveau du maquillage, la coiffure, la lumière, après la retouche...
Oui, déjà même avant la retouche.
Il y a déjà beaucoup de travail.
Il y a une époque aussi, on mettait des filtres flous pour justement essayer de... Oui, on trichait autrement, mais voilà. On trichait déjà un peu. C'est vrai qu'on a poussé le curseur. Hein.
Voilà, et là, il y a vraiment, je trouve, un souci. Puis même le mari qui est assis, dit « ouais, ma femme, elle n'est pas comme ça en regardant les magazines. » Puis on arrive à un point où c'est presque une tare d'être vieux, quoi. Alors que ce serait plutôt une qualité d'avoir de l'expérience, etc., etc. Donc voilà, là, je trouve qu'on arrive à une sorte de perversion qui n'est pas très saine.
Est-ce que le problème ne serait pas cette promesse que Kodak nous avait fait il y a super longtemps, là, clic-clac, et puis on fait le reste, qui a créé l'esprit que la photo, en fait, c'est la réalité. Et quand on voit un dessin, on s'attend à ce que le dessinateur ait pris une certaine liberté artistique. Je suis persuadé que les retouches dont on parle à l'instant, Léonard de Vinci les faisait, dans le sens où il ne devait pas peindre toutes les rides, etc., de la femme de son mécène. Mais quelque part, on le savait. Alors que sur la photo, on a créé cette image de quelque chose qui est purement le reflet du réel.
C'est vrai. C'est vrai. Et bon, je pense que les gens sont moins en moins dupes. Mais d'un autre côté, on est tellement alimenté d'images en permanence qu'on est quand même marqué quelque part, même si on sait que ça pourrait être pas vrai, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on a cette idée que c'est réel. Et quand on voit une photo, on se dit, bah, c'est vrai. Et alors que ça l'est pas.
Écoute, Cyril, merci d'avoir pris le temps de partager comme ça cette expérience.
Bah, de rien.
À bientôt.
Avec plaisir. À bientôt. Avec grand plaisir.